Chapitre 12. À Runesto, la terrible explosion avait fait sauter hors de leurs lits maîtres et serviteurs. Tous se rencontrèrent dans les vestibules en se demandant avec angoisse « Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il ? » Alain s'écria « Ce sont ces misérables qui font sauter Kerhéven, pourvu que… » À ce moment, une autre détonation se fit entendre, puis une troisième, une quatrième. La terre tremblait. Le vieux logis semblait s'ébranler. Des vitres se brisèrent et tombèrent avec fracas. Alain s'écria « Vite, vite, partez tous, allez n'importe où, mais le plus loin possible de Kerhéven et d'ici. » Madame de Pavalas bégaya « Tu crois que ce n'est pas fini ? J'ai peur que les bandits fassent sauter Runesto. En tout cas, il faut partir, par prudence. » En quelques instants, ce fut l'exode de tous les habitants du château vers la campagne, dans la nuit et la tempête. Monsieur de Pinvalas fermait la marche, donnant le bras à sa grand-mère, toute tremblante, qu'il s'efforçait de rassurer. « C'est une simple mesure de précaution, chère grand-mère, car s'ils avaient eu l'intention de s'attaquer à Runesto, ils auraient commencé par là pour ne pas nous donner l'éveil. » L'amiral opina. « Les coquins auront voulu faire disparaître leurs repères. Peut-être auront-ils réussi à s'enfuir auparavant. Mais les pauvres garçons que nous avons laissés à Kerhéven, que sont-ils devenus ?» C'était la pensée de tous. Et quand Alain eut installé Madame de Pinvalas, Florita et Armel dans une ferme suffisamment éloignée de Runesto, il parla d'aller voir ce qu'il en était. Mais l'amiral ne fut pas de cet avis. « Que verras-tu maintenant, mon enfant ? La nuit est complète. Tu t'exposerais là inutilement, car de deux choses l'une. Ou bien l'explosion a détruit Kerhéven, et alors, hélas, nous ne pouvons rien pour eux, ou bien la maison est indemne, et en ce cas, ils ne craignent rien. » Alain convint que son parent avait raison, mais ce fut avec une fiévreuse impatience qu'il attendit les premières lueurs de l'aube. Alors il s'élança sur la route de Kerhéven avec Florita, qui tenait à ne pas le quitter. Derrière eux venait l'amiral et une partie de la domesticité de Runesto. Ils atteignirent ainsi un point où cette route, descendant vers la mer, dominait un instant la côte. Et alors ils virent une chose terrible. Toute une partie du promontoire et de la côte avait disparu, abîmée dans les flots. Il restait à peu près la moitié de cette langue de granit, avec la maison, plus sinistre, plus sombre que jamais. Et ceci maintenant formait une petite île, car entre elle et la côte creusée, déchiquetée par les explosions successives, la mer bondissait, hurlait, écumait, soulevée par la tempête dont la clameur furieuse emplissait l'immensité. Le spectacle était d'une terrifiante et lugubre beauté, sous la clarté livide de l'aube brouillée, faite pour éclairer cette scène tragique. Alain eut un cri de joie, auquel firent écho l'amiral et Florita. « La maison est intacte, les hommes sont sauvés. » On les apercevait d'ailleurs, debout devant le logis, agitant leurs mouchoirs, faisant signe que tout allait bien. Il n'y avait plus pour eux qu'à attendre que l'état de la mer permît d'aller les recueillir. Florita tout à coup jeta une exclamation d'horreur. « Yves, le pauvre Yves !» La petite crique avait été bouleversée de fond en comble. Des rocs, détachés par l'ébranlement de l'air, étaient tombés sur la cabane du vieillard. Et celui-ci, surpris en plein sommeil, gisait là, écrasé de toute évidence. Alain dit d'une voix qui tremblait. « Mon pauvre vieux Gouez, finir ainsi !» L'amiral gronda furieusement. Une victime des Allemands, lui aussi. Au moins, j'espère que les trois bandits que nous n'avons pu prendre l'autre jour sont là-dessous, mis à jamais hors d'état de nuire. Ils restèrent un long moment immobiles, contemplant l'œuvre terrible accomplie par les ennemis qui avaient travaillé là, sournoisement, pendant des années. Les flots roulaient des débris, où l'amiral reconnut des parties d'un sous-marin, parmi d'autres de toute nature. Autour de quelques restes des assises granitiques, que n'avaient pas complètement disloqué les explosions, la mer écumait, se lançait en vagues gigantesques qui submergeaient tout pendant un moment. Dans peu de temps, sans doute, ces îlots rocheux creusés de couloirs, où maintenant l'eau s'engouffrait tout à l'aise, disparaîtraient à leur tour, sous l'action continue de l'océan destructeur, et iraient rejoindre, dans les fonds mystérieux, ce qui avait été le repère des Venleroux, et plus tard, celui des modernes pirates allemands. Après avoir, par leurs signaux, fait comprendre aux isolés de Kerhéven qu'on irait aussitôt que possible les délivrer, l'amiral et ses compagnons regagnèrent Runesto. Alain fit aussitôt atteler pour envoyer chercher sa grand-mère. car l'explosion, étant donné l'endroit où elle s'était produite, lui apparaissait non comme le résultat d'une action préméditée, mais bien d'une imprudence des bandits, qui en avaient été sans doute les premières victimes. Runesto, de ce fait, se trouvait donc libéré de tout danger. Cependant, pour plus de sûreté, Alain, avant l'arrivée de l'aïeul, voulut visiter la partie des souterrains située sous le château et ses alentours. Il y descendit avec Corentin et constata qu'il ne s'y trouvait rien de suspect. Les Allemands, ayant suffisamment de place ailleurs, n'avaient installé là aucun approvisionnement et l'examen de ce fait était rendu plus facile. Au bout de 10 minutes de marche, les deux hommes se trouvèrent arrêtés par l'eau qui avait envahi les souterrains à l'endroit où leur niveau devenait à peu près celui de la mer. Ainsi, de ce côté, Runesto était maintenant défendu par l'océan lui-même. Le lendemain, quand la tempête fut calmée, le flot apporta sur la côte quelques débris humains, ce qui restait de Karl Spitzfahrer, ingénieur de la marine impériale, et du baron Friedrich de Reichensfeld, lieutenant aux hussards de la mort. Puis, 2 jours plus tard, on trouva sur une petite grève le corps d'une femme, déchiquetée sans doute contre les rocs où les vagues furieuses l'avaient jetée, rejetée, faisant de lui un jouet. Autour du visage méconnaissable étaient répandus de longs cheveux noirs auxquels se mêlaient des algues et des coquillages. Et cette chevelure ne laissait pas de doute sur l'identité de la morte. Alain, qui, sur la demande du maire de Connestel, vint la reconnaître, dit sans hésitation « Oui, c'est bien elle, c'est bien celle que nous avons appelée si longtemps Elsa Hoffel. » On l'enterra dans un coin du cimetière, où fut déposé aussi ce que l'on avait recueilli des corps des deux Allemands. Mais, auparavant, un pieux cortège, en tête duquel marchait le marquis de Pinvalas, sa sœur et sa fiancée, avait accompagné à sa dernière demeure en ce monde le vieil Yves Gouez, écrasé dans sa maisonnette par un roc que la formidable explosion avait détaché. Retardé par ces dramatiques événements, le mariage d'Alain et de Florita put enfin s'accomplir à la fin d'août. La cérémonie, très simple, fut célébrée dans la chapelle de Runesto, après quoi un repas fut offert aux gens du pays, venus très nombreux, car les châtelains étaient fort aimés. Repas copieux, mais dont l'habituelle gaieté se trouvait absente, car il y avait partout trop de deuil et trop d'angoisse. Quelques jours plus tard, les nouveaux époux partaient pour la ville de l'intérieur, où Alain était envoyé comme officier instructeur. En passant par Paris, Florita alla voir les sœurs d'Antoine Barbou, le petit volontaire mort à Vanelle. La jeune marquise trouva 2 courageuses filles qui travaillaient de leur mieux et, quoique obligées de se priver beaucoup, trouvaient qu'il y en avait bien d'autres plus malheureux qu'elles. Ce fut une joie pour Florita de leur offrir son aide, après leur avoir longuement parlé d'Antoine, dont elle connaissait la mort depuis peu de temps. Pendant ce séjour d'une semaine qu'il fit à Paris avec sa femme, Alain s'informa d'Ulrich Mulbar. Il apprit que la maison de fourrure, appartenant à un Allemand naturalisé, n'avait pas été mise sous séquestre et continuait à faire de bonnes affaires, sous la direction de la fable Madame Valentin. Quant à Ulrich, couvert par cette naturalisation, il vivait paisiblement, faisant par-ci par-là de petits voyages en Suisse, en Espagne, tandis que Mademoiselle Charlotte, sa fille, courait les cinémas et les théâtres avec ses amis, en arborant les modes les plus nouvelles et les plus excentriques. Alain et Florita la rencontrèrent précisément la veille de leur départ. Elle était si grotesque dans son accoutrement qu'ils se retinrent à grand-peine de rire, quoique pourtant la vue de cette étrangère ennemie circulant librement dans les rues parisiennes leur fût extrêmement pénible. Quant à Lottchen, elle rougit, détourna les yeux, se souvenant sans doute des insultes contre la France qu'elle avait proférées naguère quand elle se trouvait avec Florita en Allemagne, dans la maison des cousins Gilman. Mais dès qu'ils furent passés, elle se détourna pour suivre des yeux le couple qui attirait l'attention de tous. Lui, l'officier mutilé, si beau et de si grand air, elle, la ravissante jeune femme aux cheveux d'or et aux grands yeux noirs, sobrement vêtue d'un tailleur foncé. Alain murmurait « Ah, quand donc nous débarrasserons-t-on de toute cette armée de l'espionnage qui infecte notre pays? Quel formidable coup de balai à donner, et comme nous respirerions mieux ensuite !» Désert et clos maintenant, tout entouré des flots, Kerriven, le sombre logis, reste comme le témoin des crimes qui se commirent en ce lieu autrefois et de nos jours. Peu à peu, la mer rongera la base de granit, et, en un temps lointain, la maison d'Evan s'effondrera dans l'océan glauque qui conserve le secret de bien des fins tragiques. L'océan, au funèbre caprice, qui garda en ses abîmes insondables le corps d'Inès de Valser, la pauvre jeune femme démente, et renvoya celui d'Hilda Strubs, l'espionne aux cheveux bleus. Fin du mystère de Kerhaven.